Les matins de France Culture, Guillaume Erner.
Boris Cyrulnik, vous publiez Ivre paradis, bonheur héroïque. Les politiques ne sont plus du tout considérés comme des héros. Pourquoi, selon vous ?
Parce que ce ne sont pas des sauveurs. Ils jouent leur rythme à leur rythme et ils ne partagent plus. Ce qui est un signe de démocratie. C'est-à-dire que dans les pays en difficulté, dans les cultures effondrées, les sorcières apparaissent. Et à ce moment-là, les hommes politiques font figure de sauveurs. On vote pour eux. Un très grand nombre de démocraties ont élu démocratiquement des dictateurs. Et ça continue encore aujourd'hui. Donc le fait que nos hommes politiques, nos femmes politiques aujourd'hui soient un peu disqualifiés est un signe de démocratie, mais ça ne facilite pas la gestion.
C'est-à-dire que finalement, nous sommes immunisés en quelque sorte contre le culte de la personnalité ?
Alors non, c'est la personnalité réel qui joue un grand rôle. Par exemple, François Bayrou a une personnalité attachante, mais c'est pas un sauveur, c'est pas un leader. Alors que c'est sa personnalité qui compte. Si on était en difficulté, il nous faudrait un héros charismatique. Celui qui est prêt à mourir pour nous sauver. On l'aimerait, on l'adorerait parce qu'il serait prêt à mourir pour nous. Et on voterait, on lui donnerait tous les pouvoirs. Alors que François Bayrou, on l'estime pour sa personnalité, mais on lui donne pas tous les pouvoirs.
Et cependant, en Europe, partout dans le monde, on voit des personnalités autoritaires, on voit une certaine propension au populisme, ce qui montre que les ressorts que vous explorez dans votre livre, qui étaient très présents il y a 50, il y a 60 ans, sont encore présents évidemment parmi nous.
Ils reviennent parce que lorsqu'il y a une défaillance de l'État, les sorcières réapparaissent. C'est une phrase de Michelet. Or là, l'État est de moins en moins puissant, on y croit de moins en moins, et on laisse la place aux sorcières. C'est-à-dire que les sorcières, les gourous, prétendent nous sauver. Et on vote pour eux. On voit par exemple, j'étais aux États-Unis il n'y a pas longtemps, Donald Trump, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant l'absence de programme, le niveau intellectuel de cet homme qui est suivi par une énorme partie de la population. C'est très impressionnant. De plus, dans les pays du Proche-Orient où je vais souvent, on adore les héros sauveurs, ceux qui nous vont mourir pour nous et qui nous entraînent dans leur mort. C'est-à-dire que c'est vraiment la preuve d'une défaillance sociale.
Vous dites dans votre livre, Boris Cyrulnik, le héros est un remède contre la faiblesse naturelle des enfants, la blessure relationnelle des adultes ou l'humiliation historique d'une nation. Expliquez-nous.
Alors, on a besoin de héros. Tous nos enfants se sentent faibles, ils sont petits. Donc, par nature, ils sont faibles, ils auront tout à apprendre et ils regardent autour d'eux qui va leur permettre de devenir forts. Quand j'étais enfant, mon héros à moi, c'était Tarzan. Parce que c'était un orphelin, parce qu'il commandait aux animaux, parce qu'il était musclé, il avait un slip en peau de bête avec un poignard dedans, et il était humanisé par Jane. Jane avec ses jolies petites mains qui disaient « Toi Tarzan, moi Jane ». Et donc je pensais que c'était mon héros. Ensuite ça a été Superman, ensuite ça a été Nasreddin Hoxha. Dans les jeunesses de gauche, dans les jeunesses communistes qu'on appelait l'UJRF, Nasreddin Hoxha était un héros valorisé en France. Parce que c'est l'époque où on pensait que les Palestiniens et les Israéliens allaient s'associer pour faire exploser les monarchies du Proche-Orient. Je viens de citer l'URSS. C'était, vous rendez compte, les fautes qu'on peut commettre. Et Nasreddin Hoxha faisait partie de mes héros. Il avait un sabre courbe, il avait un beau turban, je l'admirais beaucoup. J'avais besoin de ces images identificatoires pour me construire. Mais quand on devient adulte et qu'on a encore besoin d'images identificatoires naïves, c'est la preuve qu'on est resté faible.
Et pourtant, vous expliquez dans votre livre que les enfants ont besoin d'être mégalomanes.
Absolument, il faut être mégalomane pour oser vivre, c'est-à-dire pour apprendre tout ce qu'on doit apprendre, et particulièrement les enfants faibles, dont j'ai fait partie, dont je fais sûrement encore partie, ont besoin de héros pour se fortifier. Ce sont des images identificatoires nécessaires et dangereuses.
Mais c'est ça qui est particulièrement difficile à comprendre lorsqu'on vous voit. Vous êtes orphelin, vous l'avez expliqué dans certains de vos livres, Boris Cyrulnik. Vos parents ont été déportés, vous avez survécu et on voit, en tout cas de l'extérieur, un homme d'une grande normalité alors que les épreuves que vous avez traversées n'ont absolument rien de normal.
Je pense que c'est fréquent, et notamment, on voit dans les pays du Proche-Orient, il y a des millions, des dizaines de millions d'enfants qui sont aujourd'hui dans cette situation. Si on les abandonne, un grand nombre d'entre eux vont mourir, un grand nombre d'entre eux vont devenir délinquants, parce que c'est le seul moyen de survie pour eux. Mais si on les entoure, ils vont se socialiser, ils vont apprendre une culture, ils vont devenir aussi des créateurs, ils vont inventer une autre culture. Donc on est impliqué dans leur désastre. Si on les abandonne, on payera.
Vous n'avez pas été abandonné, vous avez été recueilli, vous êtes allé dans un orphelinat, vous avez eu une tante qui vous a recueilli également, mais vous n'avez pas été très entouré malgré tout.
Non, mais j'avais un pouvoir de rêve. Papa Freud appelle ça le refuge dans la rêverie. Et je rêvais intensément, et ça m'a préservé. C'est-à-dire que j'avais un monde intime plein de beauté, plein de mégalomanie. Je voulais devenir normal, vous vous rendez compte? Dans une situation pareille, c'était pas normal de vouloir devenir normal. Je voulais devenir comme les autres, comme le sont la plupart de ces enfants. Et j'avais un pouvoir de rêve qui enchantait mon monde intime, alors que le réel autour de moi était délabré. Il n'y avait pas de famille, une immense pauvreté et une difficulté à aller à l'école aussi. Une interdiction d'aller à l'école primaire et une difficulté à faire des études. Donc ça veut dire que mon monde réel était délabré, mais j'avais dans la tête un espace de poésie, d'un refuge dans la rêverie qui m'a sauvé.
Pendant la guerre, en tant que juif, évidemment, vous ne pouviez pas aller à l'école. Ensuite, après-guerre, vous avez eu des difficultés, j'oserais presque le terme de cognitive, à aller à l'école. Vous aviez des problèmes pour étudier et le milieu social dans lequel vous évoluiez à l'époque, Boris Cyrulnik, ne vous prédisposait pas à faire des études.
Non, quand j'habitais, pendant un moment, j'habitais à Sannois, près d'Argenteuil, et j'ai perdu tous mes copains d'enfance quand je leur ai dit que je voulais passer mon bac et que je voulais faire des études. Et j'ai été méprisé. Et tous mes copains d'enfance m'ont dit « il n'y a que les filles et les PD qui font des études ». Un homme, un vrai, va à l'usine. Ils étaient fiers d'aller à l'usine, ils étaient fiers d'être plâtriers, ils me méprisaient parce que je voulais faire des études. Et je me rappelle un gamin qui me disait « regarde, j'ai 17 ans, je suis plâtrier, je viens de m'acheter un vélomoteur et une guitare. Moi, je suis un homme et je donne presque tout mon salaire à ma famille. Moi, je suis responsable. Toi, tu es comme les filles et les PD, tu veux faire des études. » Donc, c'est un peu ce qui se repasse actuellement, dans le même phénomène dans certains quartiers, hein, où un garçon et surtout une fille d'immigrés qui veut s'intégrer, qui veut faire des études, a un problème déchirant. J'ai eu beaucoup de patients, eux, qui désiraient s'occidentaliser et intérioriser nos valeurs culturelles, et ça provoquait une déchirure intrafamiliale. Et je dirige actuellement une thèse d'une petite iranienne qui s'est voilée parce qu'elle pensait que c'était moral. Elle s'est voilée jusqu'à l'âge de 17 ans. À 17 ans, elle a commencé à se demander si c'était nécessaire de se voiler. Ça a provoqué une rupture grave avec sa mère, qu'elle aime beaucoup. Donc c'est une difficulté supplémentaire qui ne vient pas de la culture d'accueil, mais qui vient de la culture des immigrés eux-mêmes.
Brice Couturier.
Il y a quelque chose qui m'a beaucoup touché dans votre livre, Boris Cyrulnik, c'est le parallèle que vous faites, la comparaison entre la résistance et le terrorisme. Vous dites, le terroriste, c'est quelqu'un qui obéit à un ordre de massacrer. Et surtout, c'est quelqu'un qui cherche le spectaculaire, qui cherche la dimension spectaculaire de son acte. Alors que le résistant, c'est au contraire quelqu'un qui refuse d'obéir, et c'est quelqu'un surtout qui se tient, vous dites, dans l'ombre. Est-ce que vous pouvez développer ce parallèle? Parce que très souvent, on entend une espèce de confusion entre ces deux termes, le terroriste et le résistant, sous prétexte que le résistant d'aujourd'hui, nous a-t-on dit ici sur ce plateau, pourrait être requalifié, le terroriste aujourd'hui pourrait être requalifié en résistant demain. Qu'en pensez-vous?
Alors je pense que c'est radicalement différent, c'est-à-dire que le résistant a intérêt à ne pas passer à la télévision, parce que s'il passe à la télévision, il sera vite repéré, vite à tuer ou à arrêter. Alors que le terroriste, lui, son enjeu, c'est de passer à la télévision, et c'est pour ça qu'il doit commettre un acte spectaculaire. Il y a une mise en scène théâtrale de l'horreur. Mohamed Merah, dont vous parliez tout à l'heure, filmait les enfants qu'il était en train d'assassiner à coups de revolver pendant qu'il se débattait, et il filmait l'horreur, espérant que ce film passerait sur la télévision aux heures de grande écoute, de façon à pouvoir terroriser les gens. je dirige une autre thèse d'une petite Algérienne dont le frère a été abattu en plein jour par des salafistes décontractés, visage offert à tout le monde, parce que ce garçon avait monté un orchestre et que la musique est blasphématoire. Et ces gens-là étaient terroristes, ils n'avaient rien à cacher, au contraire, ils voulaient montrer l'horreur de façon à imposer leur loi. Alors que, au contraire, les résistants, eux, ne s'attaquaient que à ceux qui s'attaquaient à eux. C'est-à-dire que j'ai un oncle, Jacques, qui est mort il y a quelques jours, qui s'est engagé dans la résistance à l'âge de 17 ans. Il m'a montré la série d'attentats qu'il a fait. Il n'a fait d'attentats que contre les chemins de fer, contre les réserves, contre les armes et contre les officiers supérieurs de l'armée allemande. Pas une seule bombe dans un café, pas une seule bombe dans une école. Ça aurait été pour eux, ça aurait été l'horreur. Et bien sûr, il fallait ne pas passer à la télévision. Il fallait au contraire rester l'armée de l'ombre, comme on dit. Donc ce sont deux notions carrément opposées. Et Victor Klemperer, le linguiste, dit que une des armes du langage totalitaire, c'est la confusion des mots. On fait dériver les mots, on les vide de leur sens, et confondre volontairement terrorisme et résistant, ça fait partie du langage totalitaire.
Lorsqu'on évoque des terroristes comme Mera, lorsqu'on évoque ces hommes qui voulaient vous tuer quand vous étiez petit, qui voulaient tuer ou qui ont tué d'ailleurs des personnes autre que des enfants également, est-ce que vous croyez en la thèse de la banalité du mal? Est-ce que le psychiatre que vous êtes réussit à adhérer à une telle représentation du mal?
Alors, je lis tous les jours, ou très souvent, quelques pages de Hannah Arendt, parce qu'elle me paraît totalement convaincante, et j'ai sa photo dans ma bibliothèque. Et je sais qu'elle a été haïe par les Juifs, parce que l'expression de banalité du mal a été mal interprété. Je pense que dans mon livre là, que sur les héros, je parle d'héroïsme tragique parce qu'il y a un arrêt de la morale. Ces hommes, ces femmes sont convaincus d'être des êtres moraux. Et c'est au nom de la morale qu'ils assassinent, parce que l'empathie s'arrête, l'aptitude à se décentrer de soi pour se représenter le monde d'un autre s'arrête à leur clan. C'est-à-dire que l'autre est à peine n'est pas connu. L'autre, au moment du génocide rwandais, les Hutus n'appelaient les Tutsis que cancrelats. Les nazis pensaient que les Juifs et les Tziganes n'étaient pas des êtres humains. Les nègres étaient des êtres humains inférieurs dont il fallait faire l'élevage. Les Juifs et les Tziganes étaient des bactéries. Il était moral d'épurer la société comme on épure. C'est ce raisonnement a donné naissance à la chaire d'hygiène raciale. Il y a eu en France une chaire d'hygiène raciale à cause de cette phrase. C'est-à-dire que oui, je pense que le mal est banal pour eux. Pour eux, ils n'ont même pas le sentiment de mal, c'est très rare. La plupart d'entre eux ont commis des crimes immenses au nom de la banalité du mal. Bien sûr, vu de l'extérieur, c'est pas banal, c'est un immense crime. 6 millions d'assassinés sur un peuple de 9 millions de juifs en Europe, c'est un crime immense. Et pour eux, c'était pourtant le quotidien. C'était la banalité du quotidien et ils ne faisaient que leur devoir. C'était dans Léon Goldenzohn, le Rudolf Höss, le directeur du camp d'Auschwitz. Il écrit dans Léon Goldenzohn, qui est le psychiatre et qui a fait l'analyse psychiatrique des inculpés de Nuremberg, il écrit « J'ai passé à Auschwitz les plus belles années de ma vie ». Pour lui, c'était un moment heureux parce qu'il s'entendait bien avec sa femme. Il avait 3 ou 4 enfants mignons et une petite maisonnette à l'entrée du camp d'Auschwitz. Et il avait en même temps un métier bien difficile, vous savez. Il fallait qu'il tue au moins 10 000 personnes par jour et qu'il fasse disparaître leurs corps dans des fours. Pour lui, c'était le mal n'existait pas. C'était la banalité du travail quotidien.
Et la bonté, les justes, comment expliquez-vous qu'il y ait des gens qui, au contraire, traversent l'autre côté, en quelque sorte, de la morale, Boris Cyrulnik?
Alors, eux sont des vrais êtres moraux, c'est-à-dire que pour eux, ce qui compte, c'est la perception de l'autre et non pas la représentation de l'autre. Ce qui compte, c'est la perception d'un enfant, d'un adulte, d'une femme en difficulté. Ils ne se soumettent pas au slogan. Ils ne se soumettent pas à l'idée qu'ils se font des autres. Et alors, eux, c'est des vrais refusants. Philippe Breton emploie cette expression. C'est-à-dire que pour eux, il est bien évident que cet homme, cette femme, qu'il soit juif, qu'il soit Tutsi, qu'il soit arménien, je perçois un être humain et je réponds à cet être humain que je vois, avec qui je parle. Alors que eux ne se soumettent pas à la représentation, au slogan qui dit que les Arméniens vont pactiser avec les Russes, donc il est moral de les éliminer, que les Tutsis sont des cancrelats, que c'est pas grave de les écraser et de les tuer.
Vous avez expliqué, Boris Cyrulnik, que vous étiez intéressé aux animaux, notamment parce que lorsque vous étiez orphelin, vous en avez probablement conçu une forme d'éloignement des hommes, en tout cas dans un premier temps. Le fait que les mauvais traitements aux animaux soient de plus en plus révélés, qu'il y ait un souci du bien-être animal, qu'est-ce que ça vous inspire ?
Je pense que c'est une preuve de progrès. Alors, on parlait de morale tout à l'heure. Je pense que là aussi, la morale a quelque chose à voir. C'est-à-dire que quand j'étais enfant, on ne parlait pas aux enfants. Les enfants étaient dressés. Il fallait dresser les garçons, sinon ils allaient devenir des bêtes sauvages. Et il fallait entraver les filles, sinon elles allaient toutes se prostituer. Et c'est avec ces beaux principes éducatifs que on a éduqué toute une jeunesse de l'époque. À cette époque-là, les animaux, on vivait avec les animaux. Les paysans dormaient. Le chauffage central était fourni par les vaches. On dormait à côté des vaches et il y avait 24 degrés dans les pays en montagne. On était climatisé par les animaux. Les animaux étaient nommés. Et quand il fallait tuer un animal, on en tuait le moins possible et sans les faire souffrir. Et puis l'industrialisation a éloigné de plus en plus les émotions qu'on éprouvait pour les animaux. Et les animaux sont devenus des choses. C'est-à-dire qu'une chose, on peut la massacrer, ça n'a aucune importance, on peut l'écraser. D'ailleurs, quand j'ai fait médecine, on nous apprenait à disséquer vivant des animaux. Et quand on attachait l'animal sur une planche, on lui fendait le ventre du sternum jusqu'au pubis. Et quand les animaux criaient, moi je lâchais le bistouri, je disais « mais je peux pas faire ça ». Je me rappelle une gentille professeure de biologie qui me disait « mais quand l'animal ne souffre pas ». Je disais « mais il crie ». Mais quand votre vélo grince, est-ce que vous pensez qu'il souffre ? C'est-à-dire qu'on pensait que les animaux étaient des choses, comme un vélo, des machines, comme disait Descartes. Et maintenant, on découvre que ce sont des êtres sensibles. Ils ont le même système nerveux que nous. Ils ont le même cerveau des émotions que nous, les mêmes substances qui déclenchent les mêmes émotions que nous. Donc ce sont des êtres sensibles avec lesquels on ne peut pas tout se permettre. Il y a donc une morale intime.
Brice Couturier.
Vous nous dites que la plupart des héros, enfin ceux que vous aviez choisis dans votre enfance, ont eu une enfance difficile parce que c'était presque toujours des orphelins. Vous nous dites aussi que la plupart des mémoires collectives nationales, par exemple, ou communautaires, sont fondées sur le souvenir d'une catastrophe, d'une victoire, d'une défaite. Or, je me souviens que Maurice Halbwachs, dans ses livres sur la mémoire collective, nous dit au contraire que la plupart des mémoires collectives, en tous les cas nationales, sont fondées sur une victoire. Mais cette victoire, dit-il, est toujours obtenue au détriment d'un autre peuple, d'une autre nation, donc les vaincus, et que ça crée effectivement entre les peuples et les nations des conflits mémoriels. Qu'est-ce que vous pensez de cette thèse qui contredit un peu la vôtre ?
Alors, moi j'ai l'impression que malheureusement, je crois qu'on serait d'accord. C'est-à-dire que pour parler de victoire, il faut qu'il y ait un combat. Et notamment, je pense que l'humiliation est utilisé par tous les peuples vaincus pour légitimer leur propre violence. Donc il ne faut pas humilier les gens, il ne faut pas humilier les peuples vaincus, et il faut se méfier des gens qui se disent humiliés parce qu'ils se permettent tout au nom de l'humiliation. Donc non, je pense que je ne me fâcherai pas avec cette thèse.
De Maurice Halbwachs.
Boris Cyrulnik, Ivre paradis, bonheur héroïque, merci de nous avoir fait cette leçon d'humanisme, parler des héros de veau